Notre prochaine invitée a réussi un rare exploit, transformer une zone de guerre en un foyer de confidence. En 2018, à seulement 26 ans, Élise Blanchard s'installe à Kaboul. Alors, photojournaliste pour l'AFP, elle arpente le pays, témoin de sa bascule historique, mais son récit prend un tournant inédit en 2022 lorsqu'elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vision du terrain, celle d'Arman, un soldat taliban. Dans le livre qu'elle fait paraître ces jours-ci, elle nous ouvre la porte de sa maison dans un petit village reculé. Elle y a partagé pendant 3 ans le thé, les mariages, les deuils, mais aussi les doutes d'une famille très modeste. Élise Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, vous avez été accueillie par cette famille afghane de la province du Wardak. C'est une région qui est marquée par la guerre. Comment vous avez réussi, tout d'abord, à nouer une telle relation de confiance avec Arman, qui, comme on vient de le dire, est quand même un taliban, et au point d'être accueillie sous son toit pendant ces années?
Ben, ça s'est fait très naturellement, sans que je le veuille, en fait. C'est que quand j'y étais... C'était sympa, je passais les 3/4 de mon temps plutôt avec les femmes, avec ses sœurs, avec sa femme, avec les enfants. Et ça se passait très bien. En fait, moi, j'étais dans une position où au départ, j'étais plus là pour le travail. J'étais là parce qu'ils me disaient de venir les voir et moi, ça me faisait plaisir. Et donc, en fait, c'était très naturel, c'était pas forcé, il n'y avait pas de raison. Et comme on s'entendait bien, c'est des gens de mon âge, en fait. Arman, il a mon âge, sa femme et ses sœurs, elles ont à peu près mon âge aussi. Donc, c'était juste... Ça se passait bien, on ne se posait pas trop de questions.
Oui, vous n'étiez pas une journaliste, si j'ai bien compris. Vous étiez une invitée, un peu comme une afghane et même comme une musulmane. Et on sent une véritable curiosité, surtout de la part des femmes, à votre égard.
Oui, il y avait vraiment une curiosité, pas tant sur mon travail, mais plutôt sur ma situation. Elles se demandaient toujours comment est-ce que je pouvais être seule, sans mari, sans famille, dans leur pays. Et aussi pourquoi je voudrais faire ça.
Oui, mais vous êtes au-delà de ça devenue leur confidente. En tout cas, c'est ce qu'on constate au fil des pages parce qu'elle vous parle quand même de choses très personnelles.
Je pense qu'il y avait quelque chose où quand elles se parlent entre elles, il y a quand même cette pression du foyer parce qu'elles sont surtout en contact avec des gens qui sont dans leur cercle proche ou même au village. Tout ce qu'on dit, ça va être répété, ça peut avoir un impact. Alors que moi, j'étais vraiment cet élément extérieur où on pouvait parler, échanger sans qu'il y ait cette pression-là.
Arman est un taliban, on l'a dit, a priori. C'est pas évident de penser qu'on va être capable d'établir un dialogue, même qu'on pourra nouer une relation. Pourtant, en vous lisant, on se rend compte, vous évoquez sa bonne volonté à discuter. Il est touché, par exemple, que vous soyez resté pour les funérailles de sa mère. Vous avez même, et vous l'écrivez, des discussions très animées au point où vous vous criez dessus, vous écoutez même plus, tellement vous argumentez. On a peine à croire que ce soit possible.
Moi aussi, j'ai toujours peine à croire que ce soit possible. Mais en fait, au fur et à mesure, quand j'y passais du temps, j'avais un peu oublié qu'il était taliban. Parce que pendant une longue période, il ne travaillait plus avec eux. Il avait démissionné parce qu'il n'en pouvait plus. Il préférait s'occuper de sa famille. Et à la fin, il est retourné dans leur armée. Mais moi, je voyais vraiment le Arman de la maison. Le Arman père, le Arman frère, le Arman mari. Et donc, j'oubliais un peu tout ça. Mais je me souviens quand d'un coup, je le voyais avec sa veste de militaire ou quand d'un coup, je voyais ses anciennes photos sur Facebook où il avait le regard noir sur les pick-up talibans qui avançaient. D'un coup, ça me rappelait qu'il y en avait un autre, en fait. Quand il disait « ça, tu sais, ce pont, c'est moi qui l'ai fait sauter », il y avait un peu ces deux côtés, quoi. Et j'avais tendance à oublier qu'il y avait le côté taliban qui a fait le djihad.
Il y a une ligne, quand même, où vous écrivez, à un moment, au milieu d'une conversation, « il commence à me faire peur ».
Oui, il y avait des moments où, d'un coup, je me rappelais que il y avait ce côté de la lui, le côté qui avait été capable de faire le djihad, capable de faire la guerre et qui était toujours capable de soutenir le gouvernement taliban.
Mais qui est, vous l'avez dit, malgré tout, très attentionné, très doux avec ses petites filles, très affectueux et aimant envers sa femme. Mais on constate tout ça, mais on se demande aussi comment il peut autant aimer ses proches et ses 3 petites filles et soutenir une idéologie qui, quoi qu'on le dise, est quand même assez cruelle envers elle.
C'était exactement le point de départ de mon intérêt de mon côté. C'est quand je l'ai vu avec ses filles, avec son attitude avec ses filles, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut avoir ce réel amour pour ses filles et leur vouloir un tel avenir, quoi?
Parce qu'en termes d'avenir, vous étiez là en 2022 lorsque la décision a été prise, je crois que c'était en décembre, de restreindre et d'interdire l'accès des femmes à l'université, ce qui voulait dire plus de réelles possibilités de s'instruire. Donc, c'est tout l'avenir de ces femmes-là qui était en train de s'effondrer.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, quand il y avait eu cette décision, je me souviens l'avoir, j'étais vraiment remuée. Et c'était exactement au moment où j'allais partir en France. Donc j'avais décidé de retourner au village, les voir avant de partir. Et j'étais tout de suite arrivée, le nez dans les vidéos des talibans qui bloquaient l'entrée de l'université, etc. Et eux, en fait, ils n'en avaient même pas entendu parler. Et la discussion était très abstraite parce qu'aucune des femmes de la famille n'avait jamais étudié, ou peut-être un peu en primaire, quelques classes. Et donc pour eux, c'était un truc assez lunaire. Mais il y avait quand même eu cette réaction où il y avait sa femme Zarina qui avait dit wow, ça va mal finir s'il commence à faire des trucs comme ça. Il y avait une des sœurs qui n'était pas contente. Et lui, il y avait vraiment eu ce débat où je disais, mais tu sais qu'elles pourront plus devenir médecins si on bloque l'université. Et là, on sentait qu'il n'était pas très content. Donc il y avait déjà toutes ces contradictions qui se montraient.
Et il était convaincu à l'époque que les universités allaient rouvrir, que les talibans avaient un plan, en quelque sorte.
Oui, il était convaincu. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'il est très malléable. Si on lui dit que dans le Coran, il y a marqué qu'il faut que les femmes aillent à l'université, il dira oui. Si on lui dit non, c'est pas dans le Coran, ça les envoie en enfer, il dira non. Donc c'est ça qui fait assez peur parce qu'on se rend compte que tous ces talibans, il y en a beaucoup qui en fait seraient d'accord avec beaucoup de choses, mais il faut que ce soit ce que dit le grand émir.
Oui, et c'est une vision très manichéenne, très motivée par la vision de ce qu'est le paradis et de ce que serait un éventuel enfer. Ça revient toujours.
C'est toujours à ça que ça revient et ça justifie tout. Et c'est ça qui faisait assez peur parce que c'est dur d'avoir un débat quand je caricature, mais si pour lui, mettre la burqa pendant 40 ans, ça permet à sa femme d'aller au paradis. Il se dit, bah, vaut mieux qu'elle mette la burqa pendant 40 ans et qu'elle aille au paradis plutôt qu'elle se balade en mini-jupe et qu'elle finisse en enfer pour toujours.
Oui, parce que si un homme porte le regard sur elle ou entend sa voix, par exemple, c'est elle qui sera dans le péché et il en sera responsable. C'est un peu la logique qui prévaut.
Exactement.
Dites-moi, est-ce que tout le monde est d'accord au sein de la famille? Est-ce que tout le monde pense de la même façon?
Non, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est une famille qui était vraiment, elle était unie en tant que famille, mais en termes de leur passé, de ce qu'ils avaient fait de leur vie et aussi de leurs opinions, ils étaient tous très différents. Il y a deux petits frères qui avaient étudié à l'université de l'ancien gouvernement et qui avaient des idées plutôt modernes. Ses sœurs, elles, étaient aussi plutôt ouvertes d'esprit. Elles étaient pour leur liberté. Elles étaient contre les décisions des talibans, tout en admettant que c'était leur famille. Sa femme et sa belle-sœur, par contre, elles venaient de familles très conservatrices et étaient beaucoup plus en ligne avec les règles des talibans. Donc, c'était vraiment une famille très diverse.
Oui, très diverses et tous ces gens-là se côtoyaient, certains qui avaient été d'un côté du gouvernement, de l'autre des talibans. Et malgré tout, vous l'écrivez, il n'y a pas de bons ou de méchants autour de la table lorsque vient le temps de se réunir.
Exactement, c'est ça qui ça m'avait frappé à un repas de famille où il y avait vraiment tout le monde qui était là, les frères, enfin quasi tout le monde. Et j'avais regardé autour de la table et je m'étais dit, mais là, on a un soldat taliban, on a un frère qui était policier pour l'ancien gouvernement et qui désormais est devenu un taliban, on a un frère qui est électricien, on a un frère qui est étudiant en économie, on a, enfin voilà, c'était un patchwork de tout ce qui était possible, mais c'était même pas quelque chose qu'on mentionnait, en fait. C'est quand ça comptait pas dans le cercle de la famille.
On voit quand même les conséquences des politiques talibanes. Je pense avec quelqu'un dont vous êtes devenu assez près, la sœur d'Arman, Nasrin, qui, elle, vous l'avez dit, elle avait votre âge, mais quand même 4 enfants. Elle était mariée à un médecin qui a été tué lors de frappes américaines et elle se retrouve, comme bien des femmes, devant rien.
Oui, exactement. Elle, Nasrin, c'est vraiment celle qui m'a brisée. Je me sentais impuissante pour l'aider et elle me touchait tellement parce que elle avait vraiment rien demandé. Elle était amoureuse de son mari, elle avait 4 enfants et il est mort dans une attaque de Daesh. Donc elle avait survécu à la guerre du côté du front sous les talibans et elle perd son mari à ce moment où la guerre finit enfin. Et ensuite, en plus de tout ça, elle qui se disait bon bah je vais, qui avait réussi à rester, retourner vivre chez son frère Arman. Et être avec ses enfants, maintenant, elle avait cette pression de se retrouver un mari parce que vivre seule avec ses fils, ça créait des ragots sur elle et que c'était mal vu. Et donc, elle se retrouve avec son destin brisé et à être remariée à un taliban et isolée dans un appartement. Enfin, son sort m'a vraiment marquée.
Oui, et elle dira, l'analphabétisme, c'est la pire des injustices que les talibans nous ont infligées parce que maintenant que je n'ai plus de mari, je ne peux pas gagner ma vie. Et vous en dressez une liste de ces tâches auxquelles sont réduites ou de ces occupations auxquelles sont réduites les femmes, de nettoyer des raisins secs pour moins d'1 $ par jour, de même de mendier devant la boulangerie boulangerie en tant qu'adolescente même, on peut comprendre le profond désarroi et même les maladies mentales dans lesquelles ces femmes-là peuvent être plongées.
Ah oui, c'est un désarroi qui est intenable. J'aurais pu faire le livre sans inclure ces filles de Kaboul, comme Nouria et Sarah, mais moi j'ai dit que je voulais pas faire un livre sans mentionner ce qui arrivait à ces filles qui étaient au lycée, qui se voyaient avoir un autre avenir, qui vivaient en ville et qui d'un coup ont tout perdu. Parce que c'est des ados qui s'imaginaient un futur, pouvoir faire un métier, pouvoir continuer d'étudier à l'université. Et du jour au lendemain, elles ont tout perdu et elles n'ont aucun échappatoire.
Vous écrivez une phrase qui arrache le cœur. Vous dites « Les hommes afghans cachent leurs femmes. Elles sont trop belles et intenses. Si elles étaient libres, elles les engloutiraient. » Expliquez-nous.
Moi, je passe mon temps avec ces femmes et elles sont incroyables. Enfin, c'était même impossible de l'exprimer dans le livre, à quel point ces femmes sont derrière l'idée que ce sont des femmes de talibans ou des sœurs de talibans, donc elles doivent être passives et enfermées. Mais non, elles ont une vie qui est une vie intérieure, des voix, une force qui est incroyable, inimaginable. Moi, si je me réveillais le matin et que ma journée, c'était leur journée, je ne sais pas comment je tiendrais. Et cette force et cette vie, elles se voient dans les discussions de tous les jours, dans leur ténacité, dans comment même elles interagissent avec les hommes de leur famille. Et surtout dans ce moment où elles dansent, quand elles dansent pendant les fêtes, il y a une beauté, une force qui m'a époustouflée.
À la fin du livre, vous évoquez aussi les changements climatiques qui sont en train de ravager le nord-ouest du pays et ce qui contraint des fermiers, des bergers à vendre des petites filles 500 $ pour nourrir les autres enfants. On a l'impression que ça ne s'arrangera jamais.
C'est exactement ce que je me dis en ce moment. Je dis toujours que si on me disait que dans 10 ans, l'Afghanistan ira très bien, je serais soulagée. Mais j'y crois même pas. C'est horrible à dire, mais on voit tellement de choses qui s'additionnent. Avec le retour des talibans, il y avait la paix qui donnait un peu d'espoir. Mais quand on voit que les talibans n'ont pas bougé sur leurs règles, qu'en plus de ça, on a le réchauffement climatique, il y a les coupes des aides humanitaires, il y a l'instabilité avec le Pakistan, c'est sans fin, en fait.
Vous venez de remporter un prix du prestigieux World Press Photo dans la catégorie récit pour un photoreportage où vous êtes rendu auprès de médecins, de soignantes et de patientes dans des zones rurales d'Afghanistan. Qu'est-ce que vous vouliez illustrer en vous rendant dans cette partie du pays?
J'ai beaucoup travaillé pour documenter les problèmes d'accès aux sages-femmes et en général à accès à une structure où elles peuvent accoucher en sécurité pour les femmes afghanes. Donc c'est quelque chose que j'avais suivi depuis très longtemps. Et quand j'ai lu qu'avec les coupes d'aide humanitaire, d'aide financière américaine, il y avait eu beaucoup de cliniques qui avaient fermé, je me suis demandé tout de suite si ça avait eu un impact. Et en effet, il y a beaucoup de cliniques qui ont fermé. Et dans certains endroits où il y a très peu de cliniques, où les gens n'ont pas l'argent de prendre un taxi pour arriver dans un hôpital qui est très loin, où il n'y a pas de route, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont complètement perdu accès à un docteur ou une sage-femme. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment des femmes qui devaient recommencer à accoucher chez elles ou qui avaient perdu leur bébé en essayant d'atteindre une clinique qui était désormais trop loin. Il y avait des femmes qui en étaient mortes apparemment. Je suis allée voir les docteurs en vérifiant, en leur demandant de confirmer que oui, ça avait cet impact. Et c'est la vérité.
Félicitations pour ce prix et félicitations aussi pour ce livre qui s'intitule « Dans la maison d'un taliban, le récit inédit d'une journaliste au sein d'une famille afghane pendant 3 ans ». Ça paraît aux éditions Le Cherche Midi. Élise Blanchard, bravo encore et merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.